Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir.
All of us here.
Le chaos ce soir à Washington. Des centaines de partisans de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole au moment où le Congrès s'apprêtait à certifier la victoire de Joe Biden. Dans un discours d'une incroyable violence, le président battu avait appelé ses partisans à refuser le résultat de l'élection présidentielle. Page spéciale dans ce journal avec notre correspondant Grégory Phillips. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr la crise sanitaire. À la veille d'une nouvelle conférence de presse de Jean Castex, le gouvernement intensifie la campagne de vaccination, mais les chiffres français restent très faibles. 7000 personnes seulement vaccinées pour le moment. Invité de ce journal, le député LREM de l'Hérault, Patrick Vignal. La situation a dégénéré ce soir à Washington. La séance du Congrès qui devait certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle a été interrompue vers 20h30, heure de Paris. Des dizaines de manifestants pro-Trump avaient pénétré dans l'enceinte même du Capitole. Ils avaient réussi à forcer les maigres barrages de police qui protégeaient le bâtiment. Le vice-président Mike Pence a été évacué en urgence. Alors avant de retrouver notre correspondant Grégory Phillips, on va écouter un extrait de l'intervention de Donald Trump devant ses partisans. Un peu plus tôt dans la journée, le président battu qui refuse obstinément de reconnaître sa défaite.
Nous tous aujourd'hui, nous ne voulons pas voir notre victoire à la présidentielle volée par ces démocrates enhardis de la gauche radicale. C'est ce qu'ils font, volés aussi par les médias menteurs, c'est ce qu'il s'est produit et continue de se produire. On n'abandonnera jamais, on ne les laissera jamais gagner, ça n'arrivera pas.
Voilà pour cet extrait du discours incendiaire de Donald Trump à Washington, des propos qui semblent donc avoir incité ses partisans à passer à l'action, si l'on peut dire. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Washington, Grégory Phillips, qui suit ces événements ahurissants dans la plus grande démocratie du monde. Bonsoir Grégory.
Bonsoir.
Vous vous trouvez au milieu des manifestants pro-Trump, alors quelle est la situation ce soir? Les manifestants qui avaient réussi à pénétrer dans le Capitole sont-ils toujours à l'intérieur du bâtiment?
Alors écoutez, c'est difficile à dire, mais j'ai vu il y a quelques minutes effectivement des premiers manifestants, et notamment, vous savez, ces miliciens d'extrême droite vêtus en tenue paramilitaire se faire évacuer le visage en larmes, sans doute à cause des gaz, des grenades lacrymogènes qui ont été tirées à l'intérieur du Capitole par les forces de sécurité, et j'en ai vu plusieurs sortir tout à l'heure. Au moment où on se parle, il doit rester environ peut-être un millier de supporters de Trump réunis sur l'escalier principal qui mène au Capitole. Il y a aussi quelques groupes à d'autres entrées, mais la situation se stabilise un petit peu par rapport à ce qu'on a vécu tout à l'heure, à savoir d'un seul coup cette foule, ces groupes extrêmement mobiles qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur du Capitole au moment même quasiment où allait débuter la cérémonie de certification des résultats de la présidentielle. Et ces manifestants, violents mais pas armés, ont réussi à pénétrer dans la chambre, à l'endroit même où normalement Mike Pence aurait dû certifier le résultat de ce vote, également dans la salle du Sénat. Et les médias américains rapportent qu'il y a eu des coups de feu. Mais ça aussi, j'ai du mal à vous le confirmer. On est évidemment à l'extérieur et je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est déroulé à l'intérieur. Scène en tout cas absolument sidérante au cœur de la démocratie américaine, dans la salle de la Chambre des représentants, là où normalement Mike Pence aurait dû organiser la certification des résultats. On a vu un manifestant lever le poing et crier « Trump est notre président ».
Grégory, une chose est sûre, le discours de Trump a clairement été perçu par ses partisans comme un appel à agir contre le Congrès qui devait certifier la victoire de Biden.
Oui, d'ailleurs, et c'est pas un hasard si le meeting intitulé « Save America, sauver l'Amérique » a été organisé 2 heures seulement avant la séance prévue au Congrès et à quelques centaines de mètres, c'est-à-dire vers la Maison Blanche, face à la pelouse sud, alors que le Capitole est vraiment à portée très proche. Et c'est pour ça que, à l'issue de ce discours, effectivement, est extrêmement violent, où Trump a dit « jamais je ne reconnaîtrai ma défaite », où il a attaquer aussi Pence, son vice-président, lui intimant l'ordre de ne pas reconnaître les résultats de cette présidentielle. C'est à l'issue de ce meeting que les supporters de Trump ont pris le chemin du Capitole et se sont retrouvés en quelques minutes plusieurs milliers autour de ce bâtiment et du dôme en marbre blanc du Congrès américain. Clairement, Donald Trump a mis de l'huile sur le feu depuis des semaines, évidemment, mais encore plus ce matin. Ce soir, il appelle au calme dans un tweet, mais la maire de Washington a décrété l'état d'urgence à partir de 18h, un couvre-feu plus précisément, et des soldats de la garde nationale vont être déployés en ville pour tenter de ramener le calme.
Grégory, vous le disiez, Donald Trump est tout de même isolé dans son jusqu'au boutisme, puisque son vice-président Mike Pence était, lui, disposé à certifier la victoire de Joe Biden.
Oui, il l'avait fait savoir juste avant l'ouverture de la séance, malgré les intimidations du président, qu'il était prêt effectivement à certifier les résultats de cette élection, une fois évidemment qu'on aurait entendu les récriminations d'une douzaine de sénateurs républicains qui avaient commencé d'ailleurs à contester ce résultat, à commencer par les résultats de l'Arizona. Et puis c'est à ce moment-là que les manifestants ont pénétré dans le Capitole et la séance évidemment a été interrompue pour des raisons de sécurité. Les sénateurs et les représentants ont été évacués dans la fumée des gaz lacrymogènes. Un peu plus tard, le vice-président Mike Pence a été exfiltré du Capitole, mais le processus était en cours et il aurait dû durer normalement une partie de l'après-midi pour qu'à la fin, effectivement, Mike Pence certifie les résultats de cette présidentielle qui s'est tenue il y a 2 mois ici aux États-Unis.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Alors depuis son fief de Wilmington, Joe Biden a promis tout à l'heure l'unité et l'action aux Américains. Le président élu qui bénéficie désormais de la majorité au Congrès, conséquence de la probable victoire des candidats démocrates dans les deux élections sénatoriales organisées hier en Géorgie. L'un des deux vainqueurs, le pasteur Raphaël Warnock, sera d'ailleurs le premier sénateur noir élu dans cet état du Sud traditionnellement conservateur. Nous reviendrons bien sûr longuement demain matin dans nos journaux sur ces événements exceptionnels aux États-Unis. Jean Castex tiendra demain soir à 18h une nouvelle conférence de presse sur la crise sanitaire. Le Premier ministre devrait confirmer officiellement la prolongation de la fermeture des établissements de restauration au-delà du 20 janvier, la date initialement évoquée pour leur réouverture. Ce soir, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne confirme que les remontées mécaniques ne rouvriront pas demain dans les stations de ski. Le Conseil des ministres de ce matin, le premier de l'année, a été bien sûr largement consacré à la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement qui affirme accélérer la campagne de vaccination face aux critiques de l'opposition. Antoine Maret.
Depuis ce matin, le nombre d'hôpitaux pouvant vacciner a été multiplié par 3. Dès la semaine prochaine, il y aura 300 centres de vaccination hors hôpitaux et 500 la semaine suivante. Ils vont être approvisionnés massivement par de nouveaux vaccins, explique Gabriel Attal.
Nous en aurons ce soir un total d'1 million de doses et nous recevrons 500 000 doses supplémentaires par semaine pour ce qui est du vaccin Pfizer-BioNTech. J'ajoute que l'Agence européenne du médicament a rendu sa décision sur l'autorisation du vaccin Moderna et vous le savez, la Haute Autorité de Santé rendra son avis très rapidement, ce qui nous permettra également d'être approvisionnés pour ce vaccin à raison de 200 000 doses sur le premier mois, puis de 500 000 doses par mois.
Il y a donc les centres et les vaccins, reste donc la question de la communication. Jusqu'à présent, le gouvernement a adopté une stratégie très prudente. Chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Va-t-il désormais encourager la vaccination auprès de Français souvent sceptiques ? Sur ce point, la réponse du porte-parole du gouvernement est pour le moins évasive.
Si nous n'avions pas assumé en transparence la part de connus et d'inconnus sur ces vaccins qui arrivaient, on nous aurait sans doute reprocher d'avoir un discours qui ne tenait pas compte de cette donnée-là. Après, la nouvelle qui est tombée aujourd'hui s'agissant de l'Agence européenne du médicament est une bonne nouvelle et évidemment que nous fondons beaucoup d'espoir dans la vaccination pour mettre fin à cette crise et à cette épidémie en France comme dans le reste du monde.
Gabriel Attal insiste sur l'importance des élus locaux dans cette campagne de vaccination. Une réponse à leur critique à l'encontre d'un État jugé trop centralisé.
Antoine Marette, merci. Pour accélérer cette campagne de vaccination, des élus prennent des initiatives. Exemple en Occitanie, la présidente de la région, la socialiste Carole Delga, le président PS du département de l'Hérault, Kléber Mesquida, et le député LREM Patrick Vignal tiendront demain une conférence de presse commune. Objectif, proposer au gouvernement d'organiser cette campagne de vaccination dans leur territoire. Le député Patrick Vignal est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Vignal, en quoi consiste précisément l'initiative que vous allez lancer demain avec d'autres élus de la région Occitanie ?
Écoutez, je vais être clair, je suis assez en colère quand je vois le fonctionnement aujourd'hui de la politique en France. Donc j'ai appelé mes amis, je dis bien mes amis, Kléber Mesquida, qui est le président du conseil départemental et qui est le patron du service d'incendie et de secours de l'Hérault. J'ai appelé Carole Delga, la présidente de région, et je leur ai dit, écoutez, a priori, le président de la République a demandé qu'il y ait des villes ou des départements ou des régions test. Et si vous voulez, moi je voyage beaucoup dans mon département, et le président Mesquida m'avait fait rencontrer le contrôleur général des pompiers. Ils sont capables, eux, de monter des barnums. Ils l'ont fait pour les tests, ils font des crises à l'international, et je me suis dit à un moment donné, on va arrêter de pleurer, on va arrêter d'avoir la France à genoux, on va vraiment faire ce que veut Emmanuel Macron, le dépassement politique. Mais on ne va pas le faire avec un tweet ou avec une lettre, on va le faire vraiment. Nous devons sonner la charge contre ce virus, et les politiques doivent mouiller la chemise.
Vous considérez que les collectivités locales ont les moyens d'organiser cette campagne de vaccination ?
Vous savez, je vois sur vos radios, les chaînes de télé, je vois des politiques passer. Je vois le politique qui est à petits pas, qui se dit « je vais scier la branche du président de la République pour récupérer un fruit ». Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Les Français sont en train de se poser la question « à quoi sert la classe politique ?» Eh bien, demain, on va mettre en œuvre d'une manière pragmatique, d'une manière désintéressée politiquement, ce que peut faire l'Hérault avec des gens qui sont aux manettes. Et puis le dernier point, moi j'ai eu la chance à Montpellier d'être adjoint au sport et de faire la Coupe du Monde de foot et la Coupe du Monde de rugby. On va aussi lancer un appel dans une coopérative départementale pour les gens bénévoles qui veulent nous aider. J'ai tous les jours des mails de médecins retraités, de pharmaciens retraités, d'infirmiers retraités, les cliniques privées, Serge Constantin à Montpellier, Max Ponsaillé, Lamine Garbi, ils nous ont dit « on vient vous aider bénévolement, on prend du temps pour nous ». C'est cela, battre ce virus. Ce n'est pas avec le bouclier, c'est avec un glaive. Et le glaive, c'est les Français. Le glaive, c'est le pouvoir du bénévole. Et je peux vous dire que si on y met de l'énergie, au mois de juin, on pourra rire, chanter, et vous aurez des Français qui auront la banane, qui retourneront au restaurant et qui viendront consommer ma plage du littoral.
Patrick Vignal, 7000 personnes vaccinées aujourd'hui en France contre plusieurs centaines de milliers chez nos voisins britanniques, allemands ou italiens. Vous admettez que le lancement de la campagne vaccinale française est un échec ?
C'est même pas un échec. C'est une façon de penser qui est devenue obsolète. Parce que je vous l'ai dit, une fois qu'on aura réglé la vaccination, on aura d'autres problèmes à régler. Et en fait, je ne veux pas faire du chiffre, mais moi ce que j'ai envie de dire à Olivier Véran, et je crois qu'il a vite compris avec l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est que vous avez la partie politique, ce que vous faites est le perçu des Français. Vous voyez, vous me posez la question. Tous les jours, les gens disent dans la rue, oui, mais on est nuls parce qu'on est les derniers pour la vaccination. Je voudrais quand même le dire, parce que je dis les choses souvent et clairement, on n'a pas reconfiné, tous les pays reconfinent, pour l'instant nos gamins vont à l'école, on a été exceptionnel, je dis bien exceptionnel, pour les aides économiques. Mais je pense qu'on est frileux. On est frileux, pourquoi ? Parce que nos communicants, peut-être nos cabinets nous disent « oui, mais vous comprenez, les Français ne sont pas prêts à se faire vacciner ». Moi, je suis très clair, il y a 20% des Français, ce n'est même pas la peine d'aller essayer de les convaincre. J'ai essayé, moi, et je le dis, il y a un système politico-administratif qui souvent met plus de temps à sortir le parachute que faire.
Mais Patrick Vignal, tout de même, ces lenteurs que vous dénoncez du système administratif, le chef de ce système administratif, c'est tout de même Emmanuel Macron. Le responsable, c'est un petit peu le gouvernement. Est-ce que vous admettez tout de même qu'il y a une responsabilité de la part du gouvernement dans les ratés de cette campagne vaccinale ?
Vous savez, c'est très clair. Comment on fait de la politique ? Citoyen demande, administration qui propose, le citoyen qui décide et le politique qui décide. On a perdu la main sur l'administration. C'est très compliqué pour un politique de faire évoluer l'administration. Mais j'en veux pas à l'administration, parce que c'est nous qui votons des lois. Moi, ce que je voudrais en France, c'est qu'on soit pragmatique, c'est qu'on ait une société de bon sens. Écoutez, j'ai un exemple, et je ne m'en suis pas encore relevé. J'ai fait le tour des EHPAD, et je voudrais quand même le vérifier. Un soignant sur cinq dans les EHPAD ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on a raté, la classe politique ? Enfin, ces soignants s'occupent de nos aînés, qui sont les personnes en plus grande difficulté, et un sur cinq seulement se fait soigner. Nous sommes obligés de repenser la société. Nous sommes obligés d'avoir une société humaniste. Nous devons aller convaincre. Les Français ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Et quand ils voient le spectacle politique d'une petite partie de ma majorité qui est arrogante et qui n'a pas compris que le pouvoir, il fallait le donner aux gens pour qu'ils vous le rendent, et d'une opposition, et j'ose le dire, qui va récupérer quoi ? Des miettes ? Alors il faut repenser la place du politique dans la société.
Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je reviens un instant sur la situation aux États-Unis à Washington. Joe Biden appelle ce soir Donald Trump à exiger face aux caméras la fin du siège du Capitole. Joe Biden, le président élu, qui dénonce une agression sans précédent contre la démocratie américaine. Un mot du temps demain, il ne changera pas. Gris, froid et neigeux, surtout dans le nord-est. Température toujours hivernale de moins 6 à 3 degrés pour les minimales, de 1 à 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.